Alternative sur CFM Keilus, une émission animée par Laure sur les pratiques qui nous permettent d'être bien, d'être mieux. Le samedi 11h et le lundi à 13h. À bientôt!
Et nous voilà le samedi 11h ou le lundi 13h après tout. Et on est avec Laure pour la quoi, cinquième émission d'Alternative.
Et oui, déjà.
Et aujourd'hui, encore une invitée qui va nous permettre d'être bien, d'être mieux.
Je l'espère. J'accueille Christina Winkler. Bonjour, Christina.
Oui, bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir déjà. Mais je suis donc praticienne en gestalt thérapie. C'est une forme de psychothérapie qui effectivement vise à ce qu'on soit bien dans sa vie. Quand on traverse une période difficile ou une perte un peu de sens dans la vie, donc la psychothérapie, oui, je pense que est utile.
Psychothérapeute, c'est un mot qui te fait peur, Joanne, ou pas?
Ce qui me fait peur, c'est toutes les diverses sortes qu'il y a dedans.
Oui, c'est vrai que ça peut être un petit peu.
Non, parce que là, déjà, elle a dit gestalt thérapie, ils font pas tout ça.
Non, c'est une. Oui. Non, effectivement, il y a beaucoup de types de psy différents. Hein. Déjà, il y a le psychiatre, il y a le psychologue, il y a les psychothérapes.
Alors, est-ce qu'on peut commencer par faire un petit peu la différence entre tout un psychiatre, un psychothérapeute,
voilà,
un psychologue déjà?
Voilà, on peut faire un peu l'inventaire. Donc, déjà, ces différents types-là de psy, c'est en fait des formations différentes. Le psychiatre est un médecin, donc il fait des études de médecine avec une spécialisation en psychiatrie. Et donc, il va aussi, par exemple, pouvoir prescrire des médicaments. C'est un médecin avant tout. Le psychologue, il fait des études universitaires, donc de psychologie à la faculté. Et il va beaucoup plus axer son travail sur tout ce qui est tests, par exemple, ou éventuellement des diagnostics. Le clinicien, il va pouvoir guider, dire dans quel type de pas de pathologie, mais dans quelle orientation il faudrait aller pour se sortir du mal-être, on va dire. Et le psychothérapeute, lui, il a fait une formation vraiment spécifique dans une approche de psychothérapie. La psychothérapie étant donc une théorie qui vise le changement dans la vie. C'est-à-dire, on veut que quelque chose change. Et pour ça, il faut qu'on s'appuie sur une théorie. Sinon, on invente des choses. Ça marche aussi, parfois. Mais si on fait, par exemple, la gestalt-thérapie, ben, on a toute une compréhension de comment s'organise la vie, l'être humain. Et à partir de là, on peut aussi amener du changement.
Il y a aussi les psychanalystes.
Les psychanalystes,
oui. Vraiment, eux, sur l'analyse, pour le coup.
Voilà, la psychanalyse, c'est aussi une forme de théorie sur la psyché humaine, et donc qui s'appuie sur autre chose que la gestalt-thérapie. Après, qu'est-ce qu'on connaît? Il y a la psychosynthèse, il y a les approches psychocorporelles, qui vont souvent intégrer des massages, par exemple, hein, donc où on essaye de travailler sur comment nos difficultés ou notre existence s'inscrit aussi dans le corps, dans les muscles. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre?
Alors, la dernière fois, on a reçu une personne qui nous a parlé de MTC. Donc, maintenant, c'est ce que c'est le MTC?
C'est la médecine traditionnelle chinoise.
Très bien.
Et il nous a dit que le médecin, le praticien MTC soignait le corps et l'esprit en même temps, que ce n'était pas séparé.
Oui,
vous, en gestalt, vous êtes plutôt d'accord avec ça?
Oui, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire, en gestalt thérapie, on va vraiment travailler sur le corps, mais d'une certaine façon. C'est-à-dire, on considère le corps comme notre habitacle, on va dire. Hein? C'est-à-dire, comment l'esprit il vit dans ce corps-là? On est bien contraint à vivre notre corps, à se le trimballer tous les jours et à faire avec ça.
Vous trimballez votre corps? Il faudrait voir quelqu'un en gestalt, je pense.
Voilà, donc comment on fait pour ne plus considérer ce corps comme un objet, mais plutôt à vivre le corps, hein? Mm-hmm. Donc le corps, ce n'est pas uniquement la chair et les os, c'est comment nous pouvons nous exprimer avec ce corps.
Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple?
Alors comment j'utilise ça en psychothérapie? Quand quelqu'un va me parler de sa vie, de ce qu'il vit dans son quotidien, je vais toujours essayer de l'interpeller sur comment ça se passe dans son corps, ce qu'il vit. Donc, pas uniquement au niveau des sensations, c'est-à-dire lui demander, par exemple, qu'est-ce que vous ressentez quand vous me parlez de ça ? Alors il va me dire, je sais pas, ça me serre à la gorge, ou ça me fait une boule dans le ventre, ou je ne sais quoi. Mais c'est, on peut aller encore un peu plus loin et essayer de comprendre quel sentiment ça dégage, hein, comment on se vit à ce moment-là quand on parle d'un sujet. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est là où on va trouver comment s'articule en fait notre pensée et notre ressenti de notre corps, de nous-mêmes.
Alors j'aimerais bien qu'on explique un petit peu déjà la différence entre une émotion et un sentiment. Parce que là, vous avez parlé de sentiment, je pense que c'était plus du ressenti ou de la sensation. Il y a beaucoup de mots comme ça qu'on utilise fréquemment sans vraiment faire la différence.
Oui. Alors, je vais vous les expliquer tels que je les utilise dans
votre lecture,
approche.
Oui. Hein,
parce que, après, les émotions, les sentiments, c'est vrai que selon les approches, les définitions peuvent un petit peu varier. Hein,
Attendez, en terminale, il faut que ça soit carré. Hein, c'est les passions.
Hein? Oui, c'est classé comme ça, les émotions, hein, c'est les passions. Ouais. Ouais, et moi, je m'appuie beaucoup sur la médecine chinoise parce que je suis par ailleurs aussi praticienne en MTC. Donc. Je considère que les émotions, ce sont les émotions brutes. Donc, par exemple, la colère, la joie, la peur, la tristesse, éventuellement tout ce qui est le souci, la préoccupation. Donc c'est vraiment des choses relativement brutes. Alors je dis brutes parce que on ne les maîtrise pas, on ne peut pas, on peut les interpréter, on peut leur donner un sens, mais au départ ce sont
c'est impulsif un peu.
C'est impulsif, ouais. Et c'est surtout quelque chose qui s'inscrit dans le corps directement. Mm-hmm. Quand je suis en colère, il se passe quelque chose dans la physiologie. Alors, en général, je vais par exemple devenir rouge, je vais bouillir intérieurement, je vais peut-être transpirer, j'aurai envie d'exploser.
On va parler plus fort aussi, j'ai remarqué.
Par exemple, on peut parler plus fort, ouais, absolument. On peut même crier et tout, taper, avoir envie de taper. Ça a besoin de sortir. C'est une énergie qui pousse vers l'extérieur.
Okay. Voilà. Ah ouais, excusez-moi de vous couper.
Oui.
J'ai entendu une question. Comment se fait-il que quand on est en colère et qu'on crie après quelqu'un, c'est souvent quelqu'un qui est tout proche. Alors qu'en général, quand on monte on hausse la voix, c'est pour quelqu'un qui est éloigné. Et l'explication, c'est parce que vos cœurs se sont éloignés.
Ah, c'est joli, ça. Ah, c'est très joli, oui. Ouais, ouais. Ah, c'est poétique, ouais.
En l'occurrence, alors, là, c'est plutôt parce que ça a besoin d'exploser et de sortir du véhicule. Donc.
Oui, comme ça, moi, vous m'auriez posé la question spontanément. J'aurais dit, je pense que c'est parce que, justement, l'émotion, elle est brute. C'est-à-dire, elle ne tient pas forcément compte de la situation. D'ailleurs, c'est ce qu'on rencontre en thérapie aussi. C'est que nos émotions s'accumulent. Et du coup, n'ont souvent rien à voir avec ce qui se passe. Je peux tout d'un coup exploser en voiture parce que quelqu'un fait un truc qui me dérange ou qui finalement n'est pas très important. Mais ça va me mettre hors de moi. Mais peut-être parce que déjà avant, je me suis disputée avec mon mari, mes enfants, ils m'ont embêtée, je sais pas.
Enfin, et des fois, c'est un retardement.
Et voilà, et souvent c'est un retardement, et derrière ça il y a encore autre chose, c'est parce que ça m'a rappelé quand ma maman me disait toujours ça, ou je ne sais pas.
Regarde à droite et à gauche avant de traverser.
Par exemple, enfin.
Vous croyez qu'il faudrait une analyse obligatoire pour avoir le permis ? Non. Là il y a des gens qui manqueraient des points.
Hein. Ah oui, là, c'est sûr. Non, enfin c'est pour dire que l'émotion nous sort de nous, si je peux dire, hein, parce qu'elle produit justement une réaction physiologique. Et donc, le corps, il fait son travail, hein, il se passe quelque chose et oups, ça doit se transformer. Hein. Et bon, quand tout va bien, c'est tout à fait légitime d'être en colère dans sa vie et c'est pas une mauvaise émotion. ça devient plus difficile quand on la réprime, par exemple. Hein. Mm-hmm. La colère réprimée, quand on n'ose pas s'exprimer, un enfant, par exemple, qui ne peut jamais se mettre en colère, qui doit toujours bien se tenir, ou quand on est confronté dans des situations sociales où on ne peut pas s'exprimer librement, eh ben, on réprime les choses et petit à petit, ça devient une énergie qui stagne à l'intérieur et qui peut mener jusqu'à la dépression. Hein. Parce qu'on va vraiment faire en sorte de tout contenir et de s'éteindre un peu à petit feu. Hein.
C'est souvent une question d'éducation, ça peut être une question de culture également.
Oui, aussi, oui. Ouais. Oui, donc, alors pour reprendre l'idée des émotions, ressenties, tout ça, c'est vrai, c'est important. Donc, les émotions, pour moi, c'est cette espèce de réaction qui vient, je dirais, plutôt spontanément du corps. Alors que le sentiment, c'est quelque chose de déjà de beaucoup plus développé. Un sentiment, ça va être, par exemple, je pourrais dire... je me sens bien, par exemple, c'est une forme de sentiment où je me sens un peu frustrée, où je me sens en difficulté. Ça peut tenir compte d'émotions, bien sûr, mais c'est plus que ça. C'est déjà une façon de construire du sens avec ce qui se passe. Hein.
Ah oui, tandis que moi, je mettrais plus ça sur l'ordre du ressenti. Je pensais aux sentiments comme l'amour, tout simplement, ou la compassion. Vous les classez où dans votre système?
Excuse-moi, mais l'amour, tout simplement...
Non, mais quand on parle de sentiments, tout simplement, le premier sentiment auquel on peut penser...
Ouais. Oui, l'amour est aussi un sentiment, mais c'est un sentiment encore plus complexe. Mm-hmm. C'est un sentiment affectif... Mm-hmm. Bon, qui après, par exemple, dans la thérapie, quelqu'un me parlerait d'amour, je lui demanderais de me dire qu'est-ce que ça veut dire exactement pour lui. Mm-hmm. Parce que c'est très vaste. Et par exemple, qu'est-ce que ça veut dire ressentir de l'amour à l'intérieur de soi. Et là, on revient plutôt à ce que moi j'appelle le sentiment en thérapie, c'est-à-dire quelque chose que je peux utiliser. Je ne peux pas utiliser un concept, c'est trop flou.
Je comprends. Hein.
Donc, je suis obligée toujours de ramener la personne à ce que ça veut dire pour elle.
Donc, vous ramenez souvent au corps, en fait.
Au corps. Pour moi, tout ça, ça fait partie du corps, effectivement. Uh-huh. C'est-à-dire, c'est dire, voilà, pour moi, à l'intérieur de moi, je le vis comme ça. Et je pourrais le décrire comme ça. Souvent, c'est difficile, hein, parce qu'on a... C'est déjà tout un... Je dirais un processus d'apprentissage de pouvoir parler de ce qui nous habite. C'est pas si simple parce qu'on nous apprend pas à différencier nos émotions, à parler de comment ça se passe à l'intérieur de nous. C'est pas très habituel.
Non seulement on nous apprend pas, mais on le réprime ça.
Enfin, oui.
Je sais pas. Ouais. L'éveil à la sexualité des enfants, elle est presque toujours dans l'apprentissage des tabous.
Oui.
C'est sale, il faut se cacher.
Enfin. Oui. Oui, encore aujourd'hui.
Bah c'est vrai.
Et il ne faut pas pleurer quand on est un garçon aussi.
Ah oui, ça reste vrai, je crois.
Oui, il y a beaucoup de personnes, moi je suis toujours surprise de voir à quel point certaines personnes sont déconnectées de leurs propres émotions.
Ouais.
Certaines personnes ne réalisent pas qu'elles sont en colère.
Oui, absolument, oui. C'est déjà tout un truc de pouvoir dire, en fait, c'est de la colère que je ressens. Hein, donc... Bon, alors que ça paraît facile, mais non. La colère, par exemple, c'est vraiment une émotion difficile parce que elle est très mal jugée. Alors que en gestalt thérapie et bon, en médecine chinoise aussi, on regarde les émotions sur leur aspect d'énergie. Quelle énergie ça amène? Et ce que je disais tout à l'heure, la colère, elle va amener une énergie qui va chercher à sortir, hein, à exprimer quelque chose. Donc c'est aussi positif parce que ça va me permettre à un moment de ma vie de dire non, par exemple. De dire ah non, ça je fais pas, je peux pas, je veux pas. Hein. Mmh. Et l'énergie, c'est la colère. C'est-à-dire la colère, c'est un mouvement de vie.
Oui, en même temps, on a besoin de rugbyman. Hein.
Par exemple.
Par exemple, absolument, oui.
D'ailleurs, il me semble bien que le caractère chinois...
Je suis pas sûr. Hein.
Si, bon, en tout cas, il y en a. Je sais pas s'il en faut, mais en tout cas, il y en a. Il me semble bien que le caractère, l'idéogramme chinois pour vie et colère sont le même, en fait. Moi, c'est mon professeur de Qigong qui nous avait dit ça et nous disait la colère, il en faut un peu, pas trop. comme pour tout chez les Chinois.
Oui, oui, chez les Chinois, c'est la voie du milieu.
Mais donc, un homme sans colère serait un homme sans vie.
En fait. Oui, je crois que c'est pas souhaitable de vivre sans émotion. Hein. Mm-hmm. C'est toujours l'émotion nous renseigne sur sur comment les événements nous affectent. Donc c'est précieux. Hein. Quelque chose se passe et je vais, ça va me faire peur, par exemple. Et ben la peur, elle me renseigne sur là où j'en suis. Alors, ça pourrait être, par exemple, ben, si une voiture fonce sur moi, j'ai raison d'avoir peur. Il vaut mieux que je saute très vite sur le côté. Ce qui va se passer automatiquement, d'ailleurs. Mais elle peut aussi être pas très raisonnable. Hein. Parfois, on a peur de choses qui n'existent pas. Quand j'ai vu un film, par exemple, après, j'ai peur dans le noir ou alors parce qu'on m'a dit ceci ou cela, je vais avoir peur de prendre l'avion, mettons.
Mais de ce point de vue-là, alors, les traitements médicamenteux, ils cachent, ils masquent les émotions.
C'est le problème, d'ailleurs, des traitements médicamenteux.
Mais c'est le but. Et c'est un problème, parfois. C'est-à-dire, alors, c'est pas tout noir ou tout blanc, à mes yeux. Parfois, quand la souffrance est tellement importante qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, en fait, parfois, c'est important d'avoir ce soutien d'un médicament qui va déjà apaiser, mettre à un niveau un peu inférieur la souffrance. Et là, on peut faire une psychothérapie.
Oui, ça permet de raboter les pics et de pouvoir fonctionner normalement au quotidien.
Voilà, déjà. Et même de mener une bonne psychothérapie. Parce que quand c'est trop aigu, parfois on ne peut pas faire ce travail. Quand il y a trop de douleurs, trop de souffrances, on ne peut pas vraiment rentrer dans des questions qui, bon, forcément, quand on veut changer quelque chose, c'est qu'on n'y arrive pas spontanément, et donc ça veut dire qu'il faut aller creuser quand même un petit peu. Hein. Je pense pas que la psychothérapie doit être violente, absolument pas. Qu'elle fasse un peu mal, souvent c'est le cas, parce qu'on regarde quand même des zones en nous qui sont souffrantes, sinon on n'en aurait pas besoin.
Non. Un peu de la spéléo. C'est peut-être le moment d'aller prendre des nouvelles de Madeleine Pérou pour savoir comment elle va, non ?
Excellente idée.
Smoked his stogies in bed, but I'm all right, I'm all right. I've been lonely before. I asked the boy for a few kind words. He gave me a novel instead, but I'm all right, I'm all right. I've been It's okay, it was wrong, either way. I just wanted to say that it isn't much fun when you're drinking for one. He got drunk, he fell down, he threw a few of my things around. But I'm alright, I'm and stones. So I'm all right, I'm all right. I've been lonely before. In bed, used to blow bubbles in bed. He sang Christmas songs in bed.
CFM.
Bon, ben, Madeleine Perrou a l'air de be fine, hein, ça a l'air d'aller bien. Voilà. On est toujours avec Laure Rose, on reçoit Christina, psychothérapeute, dans l'émission Alternative de Laure.
Alors, je voulais voir un petit peu avec vous les différences entre la Gestalt-thérapie et d'autres thérapies qui sont plus peut-être figées. La Gestalt, c'est vraiment quelque chose qui s'oriente autour d'un processus, du mouvement, de l'ajustement de la personne par rapport à son environnement.
Mmh. Oui, la Gestalt-thérapie a vraiment un axe très pragmatique, moi je dirais, sans pour autant être dans ce qu'on appelle aujourd'hui les thérapies comportementales uniquement. Hein, c'est juste un aspect de la Gestalt-thérapie, de viser aussi à transformer, bien sûr, le comportement qu'on peut avoir dans sa vie quotidienne. Hein, ça fait partie du changement de processus. Mais c'est pas tout. La Gestalt-thérapie s'appuie en fait sur quatre piliers, on pourrait dire. Alors, on va tout d'abord travailler dans une relation. C'est important en Gestalt-thérapie. Le thérapeute et le patient sont vraiment impliqués dans un processus qui est le processus de changement de la personne, du patient, du client. Hein. Et les deux sont ensemble dans ce processus. Et bien sûr, le thérapeute, il va amener des éléments là-dedans du fait de sa présence. Hein. Donc, du fait de sa présence, il va amener au patient des éléments nouveaux que celui-là ne connaît pas et que donc cette personne-là va intégrer petit à petit dans sa manière d'être.
Vous ne laissez pas le patient parler tout seul. Vous lui répondez, vous le nourrissez, vous lui donnez des outils.
Voilà, exactement. Ouais, je lui donne des outils. Je suis tantôt miroir. Bon, évidemment, on n'est pas dans le conseil. C'est pas le but d'une psychothérapie que de donner des conseils. C'est plutôt d'être un petit peu en retrait, mais d'alimenter effectivement le processus thérapeutique. Hein. Donc, on regarde pas. Moi, en Gestalt-thérapie, je regarde pas la personne. Je ne suis pas experte de la personne qui vient vers moi, mais je vais plutôt observer ce qui se passe. Dans cet espace de thérapie, comment la personne me parle d'elle, ce que je disais tout à l'heure, je vais l'interpeller, soit sur ce qu'elle pense, sur des notions qu'elle évoque, ou alors ce qu'elle ressent. Et donc, ça va me montrer comment elle fait, en fait, hein, comment elle se débrouille dans la vie. Hein. Et la vie, c'est en ce moment-là aussi cet échange qui se passe durant une séance thérapeutique.
Et dans quelles circonstances, qu'est-ce qui peut amener un patient à vous consulter? On vient vous voir pourquoi, en général?
Alors, en général, c'est difficile à dire. Il y a beaucoup de situations.
Oui, parce que c'est en particulier qu'on vient, en fait. Hein.
Enfin, bon. Oui, c'est ça, c'est en particulier. Bon, ce qu'on peut dire, peut-être, l'aspect certainement le plus important, c'est quand même qu'il y a une souffrance. Il y a une souffrance, alors les gens l'expriment par un mal-être dans leur quotidien, par quelque chose qu'ils n'arrivent pas à faire, par des répétitions.
De scénarios, par exemple.
Oui, répétitions de scénarios.
Mais est-ce qu'on peut venir vous voir pour une thérapie brève, par exemple, sur une période d'insomnie ou ce genre de choses? Ou est-ce que vous faites des thérapies longues? Comment ça se passe?
Alors, la Gestalt-thérapie, c'est plutôt une thérapie suivie. C'est une thérapie qui a un fond existentiel, donc on va s'intéresser quand même à des choses qui fondent la personne ce qu'elle est. Hein. Mm-hmm. On va pas juste essayer de modifier des petites choses par-ci par-là pour que ça s'organise un peu comme ça veut, mais on va quand même tenter d'aller chercher dans le fond qu'est-ce qui est vraiment important pour cette personne-là et comment ce qui existe déjà peut s'exprimer au mieux. Avec toutes les conditions, bien sûr, puisqu'on a des vies qui sont conditionnées par notre social, par la profession qu'on a choisie, par si par exemple je travaille avec les enfants, je suis obligée de tenir compte des parents. Je peux pas faire comme si les parents n'existaient pas. Même s'ils sont pas là dans la séance, l'enfant, il va rentrer chez lui, retrouver ses parents et le mode éducatif des parents. Donc je peux pas lui dire, mais dis à tes parents que c'est pas important ça. C'est pas possible. Hein. On est obligé d'intégrer tous ces éléments. Et ça c'est un aspect important de la gestalt-thérapie, cette faculté qu'a le corps de s'autoréguler avec son environnement. On va considérer qu'on va toujours trouver dans l'environnement ce dont on a besoin pour être bien. Alors être bien, ça peut être bien un certain temps, et puis ce qu'on avait mis en place, tout d'un coup, on va se rendre compte que ça fonctionne plus du tout. Hein. Et du coup.
Oui, parce que j'allais vous dire, pour être bien, il y a la drogue. Hein.
Oui, voilà. Alors, c'est un bon exemple. Quelqu'un qui vient de voir, par exemple, avec une addiction, et il me dit, j'en peux plus, je m'en sors pas, j'en ai marre d'être là-dedans, etc. Bon, déjà, je ne vais pas lui dire, il faut arrêter, bien sûr qu'il faut arrêter, c'est le but, mais on va déjà essayer de comprendre comment se fait-il que c'était ça la réponse que cette personne-là a trouvée pour être au mieux.
Oui, alors qu'il y a l'alcool.
Alors qu'il y a l'alcool, il y a je ne sais quoi, il y a jouer au poker. Et oui, il y a plein de possibilités.
Bon, mais quand même, quand quelqu'un est conscient de ses souffrances et que, en ayant décrit par où il est passé, en s'étant raconté, ce qui apparaît devant lui tout le temps, c'est un mur infranchissable. C'est l'idée que presque, il préférait ne pas le voir, ce mur.
Mmh. Oui.
Voilà, parce qu'il n'a pas l'impression qu'il ait la possibilité, différents trous, de le dépasser, de le contourner, que ça lui soit indifférent, etc. Quand je prenais l'exemple de la drogue, c'est oublier les contingences matérielles du monde, le fait qu'il y a des enfants qui meurent à chaque seconde sur Terre, enfin voilà. Quand on est dans la souffrance, on a cette conscience-là. C'est épouvantable à vivre.
Ah oui, justement. Ouais.
Et donc vous suggérez de s'y accommoder, vous?
Non, pas du tout, non. Non.
L'occultation peut être un remède temporaire, en tout cas.
Mais c'est malheureusement souvent ce qui se passe. C'est justement parce qu'on occulte des choses que l'on en arrive là. Hein, c'est-à-dire, on va essayer de c'est une espèce de surenchère de l'occultation, hein, de vouloir occulter les choses qui nous dérangent. Alors que, là, c'est vraiment se réapproprier ces ressources propres, personnelles, qui évidemment ne sont pas les mêmes quand on est un petit enfant ou un adulte jeune ou un adulte de 50 ans. Mais on a toujours beaucoup de ressources et on les oublie. Et parfois, il s'agit de les redécouvrir et ou de les découvrir tout court. Hein, quelqu'un, effectivement, qui est tombé dans la drogue, par exemple, il a très souvent pas du tout conscience de sur quoi il peut compter en lui.
Par exemple, une extrême sensibilité qui peut rendre des gens très perméables à la réalité extérieure, un peu comme l'a décrit Johan, une espèce de sensibilité à la souffrance extérieure, on peut en faire un atout aussi de la sensibilité.
Absolument. Et c'est même, je pense que c'est un grand atout, mais il faut apprendre à utiliser ça, utiliser dans le sens... Ne pas être effrayé. Quand on est sensible, on est affecté. Hein, on revient à l'histoire des émotions. On est affecté par plein de choses. Voilà, par exemple, les trucs à la radio, là, tout ce qu'on entend, mais c'est pour quelqu'un qui est très sensible, il va le vivre comme sa propre réalité. Donc, c'est vraiment tout un chemin intérieur à mettre un peu de l'ordre dans son intériorité, je dirais, dans cette sensibilité-là, parce que c'est... Heureusement que nous sommes affectibles, je ne sais pas si ça se dit, mais heureusement que nous avons...
Enfin, l'inventer, ce sera très bien.
Ouais, voilà, que nous avons cette capacité-là, les humains, à, à être en résonance avec notre environnement. Et à la fois, c'est une difficulté.
Et en même temps, l'accueil de soi est quand même une des clés de toutes ces problématiques.
Absolument, là. Absolument, oui, c'est ça. C'est apprendre à s'accueillir soi-même, j'aime bien ce terme, plus qu'accepter, parce que accepter, c'est, ça pourrait aller dans ce sens, c'est ce que vous disiez.
Se résigner,
c'est comme ça, une espèce de fatalité.
Non. Et d'impuissance.
Voilà. Alors que non, s'accueillir, ça veut dire pouvoir dire, OK, bon, là, c'est ça qui se passe pour moi. Bon, pour l'instant, je sais pas très bien faire avec, mais bon, je vais peut-être pouvoir trouver des ressources en moi. C'est accueillir que, ben oui, parfois, il y a des situations, on ne sait pas quoi faire, on se sent impuissant, mais à la fois...
Mais c'est OK, quoi.
Oui, c'est OK, et puis on a des choses en nous qui vont aussi nous permettre à aller plus loin que ça. Le processus de vie, on revient à cette histoire de processus de mouvement, fait que ça reste pas bloqué, en fait.
Vous iriez jusqu'à dire que la gestalt-thérapie que vous pratiquez permet aux gens de clarifier ce qui leur arrive, finalement. De mieux le comprendre, de mieux l'analyser, mieux faire avec.
Alors, le but, c'est pas de donner un sens particulier. C'est-à-dire, il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas vraiment de résolution finale, on va dire. C'est plutôt une exploration. Quand on explore, on clarifie aussi, mais pas uniquement. C'est-à-dire, l'exploration, c'est vraiment aller à la recherche de. On rencontre. Moi, j'aime bien utiliser l'idée d'un paysage. On est comme des paysages, chaque être. Et on peut découvrir des choses qui nous intéressent, d'autres qu'on n'aimerait franchement pas voir là, d'autres qui nous font souffrir, d'autres qui nous mettent en joie. Il y a tout ça à la fois. Mais effectivement, il y a tout ça à la fois. On n'est pas que mauvais, on n'est pas que malheureux, on est aussi heureux par moment, on a aussi des qualités et des défauts, etc. Et tout ça, ça doit s'intégrer, mais c'est mouvant, je dirais. C'est-à-dire, c'est pas je suis comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Mais c'est, j'ai ça à ma disposition, mais il y a ça aussi. Et selon les situations, selon ce que la vie me présente, parce que les situations, souvent, on les choisit pas. Il y a certaines choses qu'on peut choisir, mais bon, voilà. On est quand même confronté à des situations comme parfois on n'aimerait pas forcément vivre. Et c'est là où pouvoir trouver en soi encore des choses, qui permettent de pas rester sur ce qu'on connaît déjà.
Il s'agit de pas s'enfermer, en fait, et de pouvoir s'ajuster au changement extérieur, quelque part.
Voilà, exactement.
C'est vrai qu'on rencontre beaucoup de gens qui ne s'aiment pas du tout. Je pense qu'on a tous fait un parcours d'acceptation et d'accueil de soi, justement. La plupart des personnes ne s'aiment pas du tout.
Oui, il y a beaucoup de... C'est très étonnant, on est très, très, souvent très, très dur avec nous-mêmes. On juge beaucoup les autres, mais alors qu'est-ce qu'on peut se juger soi-même? Et avec une intransigeance, c'est terrible.
C'est vrai que j'aimerais pas adhérer à un club qui m'accepterait comme membre.
C'est pas de toi, ça, je
vois. Franchement. Bon, tout ça, c'est bien triste, mais ça n'empêche pas, je sais pas, moi, par exemple, les Cubains, qui étaient enfermés dans un blocus économique et tout ça, de danser la rumba.
Tant qu'à faire.
Ben voilà, le corps.
Thank you.
CFM.
Olé, tu parles d'une rumba. Bon, c'était presque du flamenco, ça, alors. Qu'est-ce que c'est, cette histoire?
Ben oui, mais sur le disque, il y avait marqué, c'est rumba.
Bon, d'accord. Bon, moi, je voulais raconter une histoire à Christina, psychothérapeute, gestalt-thérapie. Je ne sais pas où elle va se situer. C'est l'histoire de Toto qui faisait pipi au lit. Vous la connaissez?
Non, allez-y.
Elle faisait pipi au lit. Alors, on lui conseille d'aller voir un psychologue. Alors, il va voir un psychologue qui lui explique des trucs, tout ça. Bon, et puis, 15 jours après, il fait toujours pipi au lit. Alors, il va voir un psychiatre qui lui donne des médicaments, alors il prend des médicaments, mais bon, voilà, 15 jours après, il fait toujours pipi au lit. Et puis un mois après, on revoit Toto dans la cour, il dit « Alors Toto, comment ça va ?»« Ah ben là, je suis allé voir un psychothérapeute. »« Ah, c'est bon, tu fais pipi au lit ?» Il dit « Si, mais maintenant, je m'en fous.
» C'est ça. Et donc, il a accueilli...
Il a accueilli son...
Joli processus d'ajustement.
Oui, c'est vrai que ça arrive, que la psychothérapie ait cette réputation-là. Alors, c'est pas vraiment le but, mais bon.
Non, et peut-être que s'il s'en fout, il arrête de le faire.
Ah, peut-être, ça, oui, ça peut arriver.
S'il arrête de
oui,
mettre la pression peut, sur ses parents, par exemple.
Oui.
Et sa pauvre maman qui doit changer son lit tout le temps.
Ouais.
Vous faites plein de choses, en fait, Christina. Vous ne faites pas que de la gestalt, vous faites donc de la MTC. Vous faites
de la MTC.
Vous avez d'autres outils à votre disposition.
Oui, alors surtout la gestalt. Bon, en médecine chinoise, c'est une formation complète que j'utilise, donc que je pratique dans mon cabinet, avec aussi le qigong thérapeutique. Enfin, là, il y a quelques outils. Mais en psychothérapie, c'est la gestalt thérapie ma base, mais ça m'a amené quand même à faire beaucoup de recherches parce que c'est des domaines sensibles justement, et on a toujours besoin de comprendre plus loin, d'avoir de nouvelles idées, de nouvelles pistes qu'on peut proposer aux patients.
Et en général, c'est par rapport à soi, par rapport à sa propre évolution.
Tout à fait. Hein? Oui, c'est quand même la base. C'est vrai que ça mérite d'être dit quand même que un psychothérapeute, il fait avant tout un travail sur lui-même. Mm-hmm. C'est la base avant de pouvoir engager une formation en psychothérapie, on commence par soi-même.
Et il y a longtemps que vous avez commencé ?
Ah, il y a un moment, oui.
Et ça va mieux, là ?
Ça va pas trop mal, oui.
En tout cas, tout le monde sourit ici, au studio de CFM Calus.
On s'en fout, on fait passer des radios, alors.
Non, c'est vrai que c'est bien. C'est bien d'avoir cette possibilité aujourd'hui de ne pas rester figé sur les choses qui sont difficiles pour nous. Hein. Et vraiment, on a cette immense chance, et je pense qu'on doit sortir des préjugés sur les psychothérapies qui seraient trop mentales. Enfin, il y en a encore aujourd'hui qui fonctionnent comme ça, où on fait que parler, on tourne un peu en rang.
D'ailleurs, est-ce que c'est pas cette difficulté pour populariser, c'est que la plupart des gens se disent il faut quasiment être intellectuel pour aller verbaliser chez un psychothérapeute, et du coup psy, c'est pas pour moi.
Oui, c'est ça, il y en a
déjà
beaucoup.
Déjà, il faut être fou pour y aller.
Voilà, alors il y a plein de préjugés, il y a ça, soit il faut être riche, beau et intelligent, soit il faut être malade, enfin
avoir du temps à perdre.
Voilà.
Moi j'ai pas le temps.
Voilà, exactement, ouais. J'ai pas les moyens, j'ai pas le temps, qu'est-ce que c'est ça, moi je fais la thérapie avec mes potes au comptoir. C'est pas de la thérapie, ça fait du bien, c'est très important, c'est du lien social, on appelle ça, hein, et c'est très très important d'avoir des gens autour de nous avec qui on peut discuter, rigoler aussi, hein, ça fait du bien de rigoler, c'est très important. Mais une psychothérapie, c'est quand même quelque chose de plus, voilà, où on va vraiment rentrer dans le vif de la chose et se réapproprier sa propre vie. Hein, c'est le but, et ça passe par le corps, et ça passe par des choses réelles et concrètes, et pas juste à chercher à comprendre, analyser, etc.
Ouais, enfin. Non, moi je peux poser une question.
Oui, je suis contente de voir que tu t'intéresses autant.
Oui, est-ce que l'oubli est pas un facteur nécessaire pour cautériser des vieilles plaies, les cicatriser, et finalement le travail qu'on fait sur soi, ben ça fait remonter des trucs. Il y avait encore ça, tiens, que j'avais occulté. Ça
oui,
fait
alors
deux fois plus de montagne devant soi.
J'ai un joli exemple pour ça, parce que ça aussi, effectivement, c'est souvent les gens disent oui, bon, je vais pas remuer le passé, ça sert à rien, je sais que ça me fait mal et tout. Mais à nouveau, c'est pas le but. Le but, c'est pas de remuer quelque chose. Le but, c'est pas de se confronter à nos démons ou un truc comme ça. Le but, c'est d'aller mieux. Et pour aller mieux, ben parfois, on peut pas faire l'impasse de regarder ce qui va pas. Déjà, parce que c'est ça que souvent qui est là. Il y a un truc qui va pas. Donc, on peut pas faire comme si c'était pas là. Par contre, en général, l'idée, c'est pas de se fixer là-dessus et de remuer le couteau dans la plaie, mais c'est plutôt de traverser ça et de voir que derrière ça, il y a encore autre chose. Et pour ça, bon, parfois, il faut faire des liens avec le passé. Beaucoup de choses nous viennent de l'enfance parce que l'enfant n'a pas la capacité à différencier de tout un tas de choses. Donc, il intègre, hein, naturellement. Et il fait sien des choses qui lui viennent d'ailleurs, quoi. Donc, très souvent, on est obligé de dire, ah, mais en fait, ça, oui, ça vient de mon éducation, ou ça, c'est, ah, ben, ça ressemble à ce que mon père faisait, ou, mais c'est pas pour ni accuser qui que ce soit, ni
pour gratter, désigner les cicatrices, voilà. Pour les refaire saigner, etc.
C'est ça, pas du tout. C'est juste pour pouvoir le mettre de côté, en fait. Dire, ok, bon, ben, ça, j'ai reconnu. Bon, maintenant, qu'est-ce qui me reste?
Hein, c'est comme si je faisais bien l'image de livres qu'on va relire, qui appartiennent à notre passé, et à un moment, on peut les mettre sur la bibliothèque.
Ouais.
Ils ne disparaissent pas, mais on ne les porte plus dans son sac à dos, on les met sur la bibliothèque.
Donc j'ai une jolie histoire là-dessus. C'est une personne qui est venue me voir parce qu'elle souffrait vraiment d'une dépression, et elle avait perdu un enfant. Et elle m'avait pratiquement averti, elle m'a dit « Surtout, je ne veux pas reparler de ça, ça c'est trop vieux, et puis bon, de toute façon, j'en ai déjà parlé, etc. » Et ben bon, évidemment, on n'a pas pu faire l'impasse de ça, de reparler de ça, donc on a pris un peu de temps pour revisiter cette histoire-là, certainement très différemment de ce qu'elle avait pu faire avant. Et ben aujourd'hui, non seulement elle va beaucoup mieux, mais en plus elle est en train de vouloir vraiment s'intéresser à cette histoire-là et de comment ça a été pour elle d'être une mère qui a perdu un enfant. Et elle a envie même d'en témoigner auprès d'autres. Là, pour l'instant, c'est une idée sous forme d'un livre.
C'est étonnant qu'elle ait déjà cette idée-là, c'est formidable.
Ouais. C'est la transformation, ça, c'est-à-dire comment de quelque chose qui est douloureux et qui a marqué ma vie et qui m'a empêché de vivre pendant longtemps, ça peut devenir à nouveau un moyen de trouver du lien avec d'autres et donc d'être dans la vie.
De se remettre dans le mouvement.
De se remettre dans le mouvement de la vie, d'aller de l'avant, bon, avec le passé.
À ce moment de l'émission, on va faire m'expliquer pourquoi il y a un morceau de Michael Jackson.
Parce que Michael Jackson, il y a certains de ses morceaux qui sont beaucoup plus profonds qu'on ne le croit, et notamment celui-ci où il explique que pour changer le monde, il faut commencer par changer l'homme qu'on voit dans le miroir.
Ouais. Bonne idée, très bonne idée.
I'm gonna make a change for once in my life. Gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street with not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them? Honest disregard, a broken bottle top, and a one-man show. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why no one yet to know.
See, 'cause they got no place to be.
Dernière partie de l'émission de l'Or Rose Alternative en compagnie de Christina, plus que 10 minutes avant la fin de l'émission.
Alors 10 minutes, bah c'est court hein, finalement cette émission.
Ça passe très vite, il y aurait tellement de choses à dire.
Alors dans votre parcours, vous vous êtes retrouvée à être présidente d'une association qui s'appelle Ressources et Vous.
Oui, j'ai même
sur Montauban, c'est bien
ouais,
ça.
C'est sur Montauban. Oui, j'ai même créé cette association en 2009 parce que bon, moi, comme j'ai déjà deux axes de travail, la médecine chinoise et la gestalt-thérapie, je me suis toujours intéressée à comment intégrer les différentes approches pour accompagner une personne. Et comme nous sommes très nombreux, comme les formes de thérapie sont innombrables, on peut peut-être dire presque, et comme on n'y comprend pas grand-chose, déjà nous les thérapeutes, on
c'est bien de l'admettre, très courageux.
Ouais. Comme nous, déjà entre nous, c'est pas évident de dire bon ben là peut-être c'est telle ou telle thérapie qui pourrait le mieux vous aider. Mais je me suis dit, c'est à nous, thérapeutes, quand même, de parler de ce qu'on fait. Hein, c'est pas aux gens de tenter de s'informer, mais c'est quand même notre métier qui est en question. Et donc, c'est à nous de faire le pas vers le public pour expliquer un peu quel est notre travail précisément, pour aussi sortir ce qui était à l'époque encore plus en débat, sortir des histoires de sectes et tout ça, tous ces mythes qui naviguent autour des thérapies à tort et à raison aussi, hein. Mais voilà, donc j'ai créé cette association qui est un regroupement de thérapeutes et qui s'est donné comme objectif de vraiment faire un travail d'information auprès du grand public. Donc ça passe par des conférences,
des forums.
Voilà, il y a un forum qui va avoir lieu très bientôt à Montauban pour la troisième fois.
Le 14 février, c'est ça?
Voilà,
le 14 Saint-Valentin.
Oui, le jour de la Saint-Valentin.
D'ailleurs, le 5 février, il y a une soirée sur l'amour.
Oui, tout à fait. Ça, c'est très bientôt.
Alors, vous pouvez trouver toutes les informations. Alors, ressources avec un S et vous, tout attaché, point EU.
Voilà, c'est ça. C'est notre site internet. Il y a tout un tas d'informations là-dessus. Il y a les thérapeutes qui font partie de l'association. Il y a les différentes approches qui sont représentées, qui sont expliquées. Il y a un petit tableau qui permet de s'orienter dans les formes de thérapie, qu'est-ce qui pourrait m'être utile, dans quelle situation je me trouve, etc. Il y a bien sûr nos activités, donc les soirées débats que nous organisons mensuellement, où toujours un groupe de thérapeutes, plusieurs en général, deux ou trois, parlent autour d'un thème. Donc là, le prochain thème, c'est l'amour, un besoin vital. Et nous sommes trois. Donc Catherine Jarousse qui travaille la programmation neurolinguistique et qui fait la réflexologie plantaire. Il y a Dorothée Alliot qui fait la métathérapie et moi-même. Donc nous allons évoquer ce sujet avec le public. Notre but dans ces soirées-là, c'est pas de faire une soirée type conférence, mais plutôt de proposer des sujets de réflexion et d'inviter le public à participer.
Donc c'est interactif.
C'est interactif et ça c'est très important pour nous parce que ça permet aux personnes de poser les questions et donc nous de donner des réponses auxquelles on ne penserait peut-être pas. Hein. Quand on est dans une interaction, eh ben, on peut tenir compte de l'autre, de qu'est-ce qui l'intéresse en fait, qu'est-ce qu'il a besoin de savoir. Alors si je fais ma conférence, eh ben, je vais dire ce que je sais, mais je ne sais pas ce que demande l'autre.
Hein. Ben, par exemple, il demande où est-ce que c'est et on peut lui dire c'est à l'ancien collège. À
voilà, par exemple aussi.
Non, je vous conseille vraiment de consulter le site internet qui est très, très riche. Oui. On peut aussi regarder le vôtre, Christina Winkler, donc à mtcgestalt.com.
Voilà.
Et on peut d'ailleurs s'inscrire, j'ai vu ça, il y a un petit peu d'un petit module d'e-learning avec 5 leçons que vous recevez chez vous, avec des petits exercices à faire pour être mieux.
Ouais, ça c'est des petits exercices pour se connecter à soi-même, justement apprendre à dire ce qui est vraiment à l'intérieur de nous. Hein. C'est quelques petits exercices qui sont vraiment très très faciles et qu'on peut même proposer aux enfants pour s'apaiser, pour formuler les choses. C'est intéressant et c'est gratuit donc à télécharger sur mon site personnel.
Oui, puis ça permet. C'est une première approche à ce que vous faites, à ce que vous proposez comme travail.
Absolument. Hein.
Vous pouvez nous décrire le premier exercice, par exemple ?
Alors, le premier exercice. Le premier exercice, c'est déjà de nommer ce qu'il y a. Par exemple, il m'arrive quelque chose et je vais dire je suis en colère, par exemple. Mm-hmm. Ça me met en colère. Donc, je vais dire je suis en colère. Eh bien, le premier exercice, c'est de dire il y a quelque chose en moi qui est en colère. Alors, ça a l'air un peu bizarre comme ça. Hein. C'est une tournure de phrase un peu simple, mais ça va très loin. Parce que si vraiment on prend le temps de se connecter à ça, de dire, bon, je suis en colère, voilà, je suis en colère entièrement. Mais si je dis, il y a quelque chose en moi qui est en colère, je suis déjà...
Il y a un recul qui se fait
déjà. Il y a un recul qui se crée là. C'est-à-dire, je ne suis pas cette colère, mais je vois bien que quelque chose en moi est bien en colère. Hein. Mais ça crée un recul.
C'est-à-dire que vous ne vous identifiez plus à votre émotion, mais vous l'accueillez quand même.
Et après, en tant que journaliste, on se demande depuis quand, à quelle heure,
exactement.
Éventuellement.
Ça, on s'en fiche. Ouais.
Alors, comment on s'en fiche?
On n'est pas journaliste.
C'est pas pareil d'être en colère parce qu'il n'y a plus de confiture ou parce que le tube de dentifrice n'a pas été rebouché, enfin, quand même.
Quand même.
On a des boucs émissaires, quelquefois.
Oui, c'est ça. Et c'est, oui, c'est, tiens, une bonne idée, ça. C'est-à-dire, c'est aussi sortir de ce type de relation où on veut toujours, voilà, trouver un fautif, hein, mais c'est de s'approprier son émotion. C'est pas de dire c'est de ma faute. C'est de s'approprier l'émotion et de voir ce qu'on peut en faire. Donc après, on peut aller plus loin. On peut dire, bon, il y a quelque chose en moi qui est en colère. On peut dire, je sens quelque chose en moi est en colère. C'est encore plus de recul. Et là, on contacte déjà la sphère du sentiment. C'est-à-dire, ça produit quelque chose. Le fait que je sois en colère, ça produit quelque chose en moi, que je peux observer. Et ainsi, on va de plus en plus loin, si j'ose dire, et je deviens, le cycle d'exercice s'appelle devenir plus grand que sa souffrance, je crois, ou sa... Je sais plus, devenir plus grand en tout cas. Et c'est effectivement ça qui se passe. C'est-à-dire, on devient, on s'élargit parce qu'on n'est pas qu'une seule chose, mais on découvre que ben, même si on est très en colère, par exemple, ben, il reste toujours autre chose en nous qui permet d'avancer.
Très bien. En tout cas, toutes ces informations seront reprises en partie sur le site de CFM et en partie sur la page Facebook de l'émission. Donc, on mettra bien tous les petits liens pour avoir accès
à très bien.
Toutes ces informations.
Oui, je pourrais peut-être encore donner le lien pour le forum qui a donc lieu le 14 février à Montauban, à l'ancien
forum
collège.
Forumequilibre.com,
tout simplement. Le site.
C'est sympa.
Voilà, avec le programme, qui les intervenants, etc.
Très bien. Merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous, Christina.
Merci beaucoup de m'avoir reçue. C'était très intéressant.
Alternative sur CFM Caylus, une émission animée par Laure sur les pratiques qui nous permettent d'être bien, d'être mieux. Le samedi 11h et le lundi à 13h. À bientôt. I have to celebrate you, baby.